l'actualité du Trégor.
Et mon invité du jour aujourd'hui, c'est Jean-Yves Menoux, ex-président du SMITRED. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour Mathieu, bonjour les auditeurs et les auditrices de Millennium.
Alors on va faire le bilan de ces années à Vallauris. Alors première chose, on va déjà revenir sur cet accident mortel. Il y a eu d'ailleurs des incendies, des accidents à Vallauris, mais jamais de mort. Comment vous avez appris ce drame ?
Ah, c'était dramatique pour moi. Donc, moi, j'étais à côté de Barcelone chez les enfants là-bas. On était en vacances quand j'ai eu le coup de fil. Donc, ce fameux mercredi là, pour m'annoncer qu'il y avait un départ d'incendie. Et au début, j'ai pris ça. Je dis, ça va pas être trop grave. On a eu malheureusement plusieurs fois déjà des départs d'incendie. Ouais. Et quelques minutes après, on m'a appelé pour dire qu'il y avait des décès, voire des blessés, des agents qu'on retrouvait pas dans l'usine. Et c'était dramatique pour moi dans tous les sens du terme.
Vous êtes arrivé le lendemain, je crois.
Ouais, j'ai pris la voiture aussitôt, une heure et demie après, le temps de ramasser quelques petites affaires. Et je suis arrivé ici juste donc le jeudi pour avant 14h, parce qu'il y avait un moment de recueillement qui était prévu dans l'usine avec tout le personnel et je tenais à être présent.
Vous le connaissiez bien, Benoît Perru ?
Ah oui, très bien, puisque d'abord, donc, c'est un enfant de Poubert. Donc, son père et sa mère ont travaillé, étaient en pays communaux, donc à la commune de Poubert. Benoît est né à Poubert, moi-même je suis né à Poubert, donc je le connais particulièrement bien. Je connais aussi beaucoup son épouse, Sonia, qui est la fille de nos voisins où j'habitais donc avant de revenir au bourg. On était voisins, on était à une centaine de mètres, et puis Sonia était très souvent avec ma fille Morgane chez nous.
D'accord.
Je suis très affecté sur ce drame-là, bien sûr par rapport à l'accident, mais aussi par les liens qui me tissent, donc que m'ont toujours tissé avec la famille des deux.
Ouais. Justement, vous étiez proche des salariés.
J'ai toujours cherché à y être, donc j'ai une fibre à ce niveau-là. Moi, je suis comme on dit un 68ard, parce que je suis né en 50. À l'époque de mon maire, on parlait donc de l'autogestion, la présence beaucoup des salariés dans le mode de fonctionnement, des démarches participatives au niveau des entreprises. Donc, j'ai essayé de mettre ça en pratique à mon échelle. Je pense avoir pas trop mal réussi. Donc, il faut toujours des directeurs, des chefs d'entreprise et il faut aussi des salariés. Mais je pense que quand on tisse des liens entre nous tous, on fait des grands pas en avant.
Puis c'est des métiers difficiles en plus.
C'est des métiers très difficiles, oui, très difficiles. Bon, d'abord, il faut bien dire que quand on travaille dans le monde des déchets, vu de l'extérieur, c'est pas reluisant. Or, ce sont des métiers donc très valorisants aujourd'hui. Et je suis content qu'on ait vu cette évolution. Les parties du monde du déchet a des ressources aujourd'hui. Ouais. Les déchets ne sont plus quelque chose qu'on enfouit. On était hier, quand j'ai dit hier, il y a 30 ans, quand j'ai démarré cette croisade-là, on va dire, tout s'enfouissait. Aujourd'hui, tout se valorise et on arrive pratiquement au monde du zéro déchet.
Est-ce que ça a été compliqué de laisser la main du SMITRED après ces nombreuses années ?
Ah, ça vous touche les tripes, il faut être clair. C'est évident. Il y a beaucoup de, il y a des liens de sympathie, d'amitié, beaucoup de choses qui se lient avec le personnel que j'ai vu. On est parti quand même moi je suis parti avec un agent qui s'appelait Jean-Yves Lossis à l'époque.
Ouais.
Avec qui derrière, j'ai eu donc Valérie Troidec qui est toujours présente. Jean-Yves Lossis était devenu le directeur, il est parti en retraite il y a déjà pas mal d'années, une vingtaine d'années. Et Valérie qui m'a accompagné, qui est venue comme secrétaire, est toujours aujourd'hui notre DRH et notre secrétaire général au niveau du SMITRED.
Ouais.
On est parti, vous voyez, d'une poignée de personnes. Et aujourd'hui, le SMITRED, c'est pratiquement une centaine de personnes, 76 exactement titulaires, plus les auxiliaires, les saisonniers, et etc., plus 25 personnes en prestataire de service. Donc, c'est une entreprise de 125 personnes aujourd'hui.
Et la décision a été prise quand ?
Alors, c'est très vieux.
Ouais.
J'ai toujours dit, en 83, lorsque je suis devenu élu pour la première fois, à 70 ans, je ne prendrai plus de responsabilité.
Donc, d'accord. Ah oui,
c'était ancré déjà dans ma trajectoire. Et au niveau de Vallauris, j'avais annoncé mon départ donc au mois de décembre dernier.
D'accord.
Dans l'assemblée générale du mois de décembre, j'ai dit moi c'est ma dernière assemblée générale. Donc voilà. Donc j'avais dit quelques mots aussi à ce moment-là. Je voulais prévenir l'électorat. Je voulais prévenir aussi ceux qui allaient se présenter donc aux élections.
Mmh.
Et ben voilà, il y aura également à penser donc à un renouvellement au niveau du SMITRED. Et je dois dire que quelque part, tranquillement mais doucement, un peu en sous-main, j'avais préparé donc un peu la succession, parce que je voulais que quelqu'un, la personne qui prenne le relais, soit de la même trempe, si on veut dire,
ouais,
avec une culture d'entreprise, parce que le Smithrey, c'est une entreprise avant d'être une collectivité.
C'est ça, ouais. Et alors Valoris, donc c'est un peu votre bébé, qui avait choisi ce nom Valoris?
Alors ce nom de Valoris est venu un peu par... Alors on a lancé un petit concours avec un bureau d'études de communication.
Ouais.
Ça a été fait donc en 92 ou 93, de mémoire. Ça s'est passé à Ploubert.
D'accord.
Carrec. Donc le bureau de com qui nous accompagnait avait présenté plusieurs noms. Il y avait Cristal, Granit.
Ouais.
Et à un moment donné, il y a eu Valorix. Mais dans le brainstorming, on était très nombreux dans la salle. Il y a eu plusieurs en Granit parce qu'on était, c'était la robustesse. Cristal, c'était la transparence. Et puis, quelqu'un, je sais plus comment c'est venu, il y a eu Valorix. Et puis Valoris, ça faisait un peu Astérix, ça faisait un peu de tête. Et puis moi j'ai dit, Valoris comme ça, c'est sorti, je me suis mis debout, j'ai dit, ah oh, Valoris, ça serait bien. Et il y a eu tout de suite un hurra dans la salle, on était nombreux, hein, et ça a été donc une décision unanime. C'est ça que je trouve ça formidable.
Oui, et puis Valoris, c'est aussi une ville du sud de la France, non?
Oui, alors c'est le seul truc qu'on m'avait dit à l'époque. Alors il faudra quand même appeler le maire de Valoris, donc dans le sud de la France. Je vais être franc, je vais le dire aujourd'hui, je ne l'ai pas fait.
D'accord.
Parce que j'avais un peu peur qu'on associe phonétiquement le nom de sa commune à un challenge sur le monde du déchet.
Ouais.
Et derrière Valoris, moi je voyais surtout le mot valorisation.
Oui.
Et toutes les déclinaisons qu'on pouvait avoir après avec la phonétique de Valoris.
Et alors, est-ce qu'au début, ça a été compliqué de convaincre les maires de la nécessité du tri?
Oh, c'était carrément un parcours de combattant. Je vais être franc. C'est parti du... Alors, il faut savoir que cette idée-là est partie de, au moment des élections de 89. C'est vieux, hein, ça fait
ah
un
oui.
ancien combattant, je suis ouais. désolé. Hein. Et on était plusieurs présidents de syndicats à avoir donc des difficultés à trouver des centres d'enfouissement pour mettre des déchets.
D'accord.
On avait certains présidents avaient des traitements. C'était le cas du site homme de la Côte du Granit Rose que je présidais.
Ouais.
On couvrait donc Ploubert, Lannion, Trébernin, Trégastel, Plemin-Vaudou et Perros-Guirec avec l'usine de Plemin-Vaudou. Et on était confronté à l'enfouissement des refus dits de compostage à l'époque qui nécessitaient beaucoup de surface donc de terre hein, pour donc mettre ces refus et les difficultés de trouver les centres d'enfouissement.
D'accord.
Mes amis de Guingamp, mes collègues de Paimpol, Trigui étaient confrontés à la même chose. Et donc j'ai émis l'idée au département, hein, donc au président Charles Josselin à l'époque, avec le concours, avec l'appui de Pierre-Yvon Trémal, qui était député, hein, et vice-président du Conseil général, mener une réflexion sur l'ensemble du département.
D'accord.
Et donc ça a duré 2 ans. Et Charles Josselin a dit, le reste du département n'est pas en mesure, n'est pas à maturité pour aller sur une réflexion d'ensemble. Si vous êtes capable de le faire dans le Trégor et dans le Guélo, eh ben, on pourra s'en inspirer pour au niveau du département. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu après.
Ouais.
Et du coup, l'idée est partie à l'échelle du Trégor-Guélo. Hein, et j'ai fait, c'était le parcours du combattant, parce que j'ai fait, je ne suis pas comme un conseil municipal. Hein. Alors, on n'était pas 115 communes comme aujourd'hui.
Oui.
Hein, on était 30, 40, 50. Ça a grossi au fur et à mesure pour arriver à 60, 70, 80, 90, 100. Et puis après, les 115 qu'on a. On était jusqu'à 118 jusqu'à l'année dernière.
Ouais.
L'année dernière, il y a eu la fusion de 4 communes du côté de la Rogérien, là.
Ouais.
Et Pommery de Jody. Du coup, on est passé à 115 de nouveau.
Alors, aujourd'hui, il y a 2 Adelots. Vous avez réussi votre pari.
Voilà. Quelque part, on a réussi notre pari. 2 agglos, donc Lannion-Trigor Communauté, hein, qui est donc que 100 000 habitants, grosso modo. Hein, et puis Guingamp-Paimpol Agglomération, qui fait à peu près 80 000 habitants. Et n'oublions pas, on a aussi le petit pousset, on va dire ça comme ça, qui est l'île de Bréhat, qui n'est pas dans les intercos. Donc on a 2 intercos plus l'île de Bréhat.
Plus l'île de Bréhat.
Voilà.
Il faut sans arrêt investir pour être au top, non?
Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai toujours eu ce discours-là. Hein, si on revient 30, 40 ans en arrière, on crée des infrastructures à l'époque. On ne va pas dire que nos prédécesseurs n'ont pas travaillé. Ils ont tous travaillé avec donc les moyens du moment. Mais la leçon, il faut tirer des grosses unités. Moi, quand je suis arrivé sur ce problème-là, j'ai pris l'exemple de Rennes, de Paris. Sur Rennes, sur Paris, on a des usines qui sont en exploitation depuis des années et des années. Paris brûle depuis plus d'un siècle des ordures ménagères. Rennes le fait depuis les années 60. Ouais. Et ce sont toujours les mêmes sites. Ça veut dire qu'on les a modernisés. Or, nous, en province, les petites infrastructures, souvent, on arrivait à l'obsolescence et il fallait repartir à zéro à chaque fois. Et donc, j'ai dit, il vaut mieux être petit chez les grands que grand chez les petits et faire, se réunir pour faire des équipements lourds sur les parties qu'on ne sait pas faire tout seul. Et qu'est-ce qu'on ne sait pas faire tout seul? C'est le maillon incinération, que le maillon souvent contesté. Ouais. À l'époque, était très contesté. C'est pour ça que ça a été le parcours du combattant pour construire le Smithred à l'époque, parce qu'il y avait des images sur l'incinération qui étaient catastrophiques, sur la dioxine et choses comme ça. Alors, moi, j'ai dit, l'incinération n'est qu'un maillon de la chaîne. Et dès 91, avant que le Sietom, qui était un syndicat d'études, est devenu Smithred, donc en 92, alors, dès 91, on a présenté aux élus un plan multifilière, multidéchets, qui s'appelle Valoris aujourd'hui. Ouais. Et parce que j'ai dit, c'est pas un seul maillon. Il faudra se lancer dans le tri. Il faut se mettre ça dans le contexte des années 80. Nous, on faisait le tri du verre depuis les 83, mais les plastiques, les papiers, les journaux, c'est venu dans les années 90. Les déchetteries sont arrivées en France vers 87-88. La première déchetterie a été montée à Bégard en 89. La deuxième dans les Côtes d'Armor. Première dans les Côtes d'Armor, Côte du Nord à l'époque, c'était Bégard. La deuxième dans les Côtes d'Armor. Ça a été donc celle de Lannion.
Ouais.
Voilà. Donc, il faut se mettre dans ce contexte-là. Tout était à construire. Et déjà, on a osé écrire le tri. Le tri, il y a un centre de tri. C'était quelque chose de révolutionnaire, vous voyez. Et après, on a fait toutes les filières que vous imaginez, le compostage, les filières du bois, polystyrène, les papiers, les journaux. Enfin, on connaît aujourd'hui ce qui est de multifilière, qui est vraiment opérationnelle à l'échelle de Valoris au niveau du Smithred, qui est regardé de l'extérieur comme un exemple, hein. On est nul et prophète dans son pays parce qu'on croit que nous, on n'est pas bon, on est très bon. Et de l'extérieur, on est pris comme exemple, ce qui m'a valu être présent au niveau national dans de nombreuses commissions d'ailleurs.
Est-ce que vous pensez que les Trégorois ont compris l'intérêt du tri?
Moi, j'ai dit que dans le Trégor et dans le Pays Goëlo, dans l'Argonne, il y a un terreau de tri. On a un terreau sur le geste de tri qui vient de très loin. Qui vient des débuts des années 80 quand on a commencé à faire du compostage. Parce qu'on a commencé à faire du compostage, il fallait enlever le verre. Donc, nous, on a une avance sur le reste des territoires en France, à ce niveau-là. Et les Côtes d'Armor, avec, donc, d'une manière générale, on fait du tri depuis très longtemps également. Parce qu'il y a plusieurs usines de compostage qui ont été construites dans les années 80. La Bretagne, il y en avait plusieurs usines de compostage. Il y en avait à Landerneau, il y avait donc dans le sud du Finistère, du côté de Bénodet, dans le secteur de Valandenay, toutes ces choses-là, on avait du compostage. Et donc les Bretons, et donc particulièrement dans la Côte d'Armor, ont eu le geste de tri de bonheur. Et ça s'est traduit après par l'adhésion des Trégorois à ce geste de tri qui a été demandé au fur et à mesure qu'on a développé le tri. Ce qui vaut aujourd'hui nos performances nationales, puisque on sait que nous sommes dans les plus performants au niveau national. D'autres territoires français arrivent aussi maintenant à ce niveau-là. Tant mieux, on s'en félicite. C'est pour ça qu'on a milité au niveau français. C'est pour ça que j'ai travaillé aussi au niveau de l'AMF, l'Association des maires de France, où j'étais au comité directeur. Et j'ai représenté l'AMF auprès du ministère pendant plusieurs années, une bonne dizaine d'années. Et on est arrivé dans ce sens-là. Mais il y a encore du boulot en France à faire. Hein.
Oui, il faut toujours sensibiliser. Quelle est votre plus belle réussite de toutes ces années?
Ouais, la plus belle réussite que j'aurais, c'est l'extension de consigne de tri.
Ouais.
Sincèrement, en 2011, quand c'est venu, quand l'idée a été émise, j'étais au ministère ce jour-là, le jour que ça a été émis avec donc les hauts fonctionnaires et les représentants de l'Europe qui étaient là, hein, qui dit en France, il faut qu'on fasse ça, l'extension de consigne de tri. Et j'avais à l'époque un nouveau centre de tri à construire. Et j'ai dit, il faut pas qu'on rate ce rendez-vous-là. Donc, on a été le premier centre de tri refait à neuf, on est reparti à zéro, avec l'extension de contrôle du tri. Et la réussite, c'est que la population a adhéré. Aujourd'hui, je dois la réussite de Valoris aux Trégorois, aux habitants de Paimpol, aux habitants de Guingamp, en fait, tout le territoire du Smithred. Parce qu'ils ont répondu présent. Et il faudra maintenir la pression. La communication à ce niveau-là est essentielle. Les services com menés par Magali Kéden, il faut le maintenir au niveau du Smithred parce que c'est là que ça se passe. C'est parce que c'est les solutions de traitement qu'on met derrière. On l'a vu sur la partie collectivité, mais on le voit sur le bois, on le voit sur aujourd'hui les plastiques durs qu'on a mis en place il y a à peine un an, qu'il va falloir poursuivre. Le bois comme je me suis battu pour que le bois reste à l'échelle du territoire parce que la valorisation du bois doit rester à l'échelle du territoire. On a besoin d'énergie sur de l'agroalimentaire à Guingamp. Il faut pas rater ce rendez-vous. C'est le seul endroit en Bretagne en tout cas dans les Côtes d'Armor, un seul site de l'agroalimentaire de Guingamp qui peut apporter une double réponse, valorisation du bois local, emploi local du coup, et conforter l'implantation donc par rapport donc aux enjeux de l'agroalimentaire des industries, parce qu'ils doivent aussi remonter des challenges sur donc le CO2, en fait sur tout ce qui est donc l'énergie de demain.
Il y a une chose que vous n'avez pas réussi à mettre en place, c'est que vous auriez aimé.
C'est celui-là. Ouais. J'aurais voulu terminer en mettant en service la chaufferie bois à Guingamp.
Donc c'est peut-être le message que vous voulez faire passer aujourd'hui à votre successeur Éric Robert.
Oui, et je sais qu'il ne lâchera pas le manche là-dessus. Je souhaite que les élus de Guingampais soient au rendez-vous là-dessus. Et j'espère que tous ensemble, on avancera dans cette direction-là. Il reste beaucoup de travail à faire encore.
Merci beaucoup en tout cas Jean-Yves Menoux d'avoir été sur Millennium. Et belle retraite hein.
Merci beaucoup et merci aussi à Millennium de nous avoir accompagnés des fois sur les animations de Valoris sur la côte, parce que c'est par la com qu'on fait le boulot.
Merci. À vous tous. Au revoir Jean-Yves.
Kinavo.